Vous écoutez France Inter. Il est 18h. Et le journal vous est présenté par Estelle Schmitt. Bonsoir Estelle.
Bonsoir. Optimisme et sourire de façade, mais les divergences demeurent sur le Brexit entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, notamment au sujet de la frontière irlandaise. Le G7 boudé par le réseau Action Climat, ces ONG dénoncent des conditions imposées par l'Élysée, on le verra. Un maire devant la justice pour avoir pris un arrêté qui interdit les pesticides près des habitations, les agriculteurs vont debout contre sa décision. Des années de polémiques et les premières pièces du bouquet de tulipes, sculpture de Kunz dédiée aux victimes des attentats du 13 novembre, seront montées la nuit prochaine à Paris. Et puis du soleil presque partout demain, nous dira Jean-Pierre Hamon de Météo France.
France Inter.
Ils auront passé 2 heures ensemble avant de se retrouver samedi au G7 à Biarritz. Poignée de main chaleureuse entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Le Premier ministre britannique veut un accord sur le Brexit, mais répète que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne avec ou sans accord le 31 octobre. Sur la question de l'Irlande, Boris Johnson estime qu'il est possible de s'entendre sur la question, propose des solutions techniques concernant le backstop, ce filet de sécurité pour éviter le retour d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Emmanuel Macron est d'accord. Enfin, à certaines conditions.
Je l'ai dit très clairement dans mon propos introductif. Le backstop irlandais, comme on l'appelle, est un élément qui a été négocié dans le cadre de l'opération compte tenu des réalités géographiques de l'Irlande et des situations politiques passées. Et donc, c'est un élément important qui permet, d'une part, de garantir la stabilité en Irlande et, d'autre part, l'intégrité du marché unique. C'est ces deux objectifs qu'il nous faut poursuivre. Quand on parle de flexibilité, je veux simplement être très clair avec vous. Ces deux objectifs doivent être tenus. Et donc on doit trouver la solution qui permet d'assurer l'intégrité du marché unique. On doit pouvoir garantir aux entreprises, aux consommateurs, aux citoyens européens que les règles, liberté de l'Union, sont assurées et que ce qui entre venant d'un marché qui n'est plus dans l'Union européenne se soumet bien à ces règles et à des contrôles, à un endroit donné.
Et ce soir, l'Élysée précise qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson souhaitent que se poursuivent d'ici la fin septembre l'échange pour essayer de parvenir à un accord sur le Brexit. Le Brexit, ce sera aussi l'un des gros dossiers de ce week-end à Biarritz, au G7. Première fois d'ailleurs que le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontrera le président américain Donald Trump. Elle était invitée, mais elle décline. Les ONG du réseau Action Climat, dont Greenpeace, Oxfam France ou encore WWF, elles se disent mises à l'écart. Précision à de leur Barral.
Les associations ont décidé de boycotter parce qu'elles estiment que les conditions d'accès aux discussions du G7 et surtout à la presse chargée de couvrir le sommet ne sont pas satisfaisantes. Très peu d'accréditation et encore dans un espace près de la gare de Biarritz, donc loin du centre de presse. Mais elles reprochent aussi à l'Élysée de ne pas avoir pris au sérieux leur travail et leurs recommandations en amont du sommet, avec plusieurs réunions reportées puis annulées. Les tractations ont duré jusqu'à tard hier soir avec le protocole de l'exécutif, mais aujourd'hui leur décision est prise en disant elles n'avaient pourtant pas refusé d'invitations dans leur ensemble. Elles n'ont pas envie non plus d'être instrumentalisées lors de la journée de demain à l'Élysée qui se voulait ouverte à la société civile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune ONG au rendez-vous ou au déjeuner de l'Élysée, puisque la journée était aussi ouverte aux questions des femmes et du développement. Mais il manquera les principales associations environnementales comme Greenpeace ou le WWF.
Et le G7 côté sécurité, l'aéroport de Biarritz où de nombreuses délégations doivent arriver, fermé ce soir jusqu'à mardi matin. Les gares de Bayonne et Hendaye fermées demain soir. Hier soir, un ressortissant allemand a été expulsé. Il faisait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. Il était connu des renseignements allemands pour sa participation à des violences contre les forces de l'ordre. L'Allemagne qui connaissait il y a un an une vague de violences contre les étrangers et des manifestations de l'extrême droite dont les images avaient fait le tour du monde après la mort d'un homme de 35 ans à Chemnitz, tué à l'arme blanche lors d'une bagarre. Le principal suspect, un Syrien de 24 ans, a été condamné cet après-midi à 9 ans et demi de prison. La défense avait plaidé l'acquittement faute de preuves. De quoi soulager l'Élysée? Il n'y aura pas d'affaire Keller, comme il aurait pu avoir une affaire Benalla, puisque le parquet national financier a classé sans suite l'enquête pour prise illégale d'intérêt qui visait le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Une investigation de plus d'un an, Emmanuel Leclerc.
Oui, dans son communiqué, le parquet national financier affirme que les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance économique de la police judiciaire ont passé un an, effectivement, à enquêter sur les soupçons de conflit d'intérêt d'Alexis Keller, soupçons soulevés au départ par la rédaction rédaction de Mediapart, relayée ensuite par l'association Anticor qui avait porté plainte. Les magistrats ont donc estimé qu'il n'y a pas d'indices et ou de preuves suffisantes de prise illégale d'intérêt, pas de relation délictueuse avec la MSC, la Mediterranean Shipping Company, le numéro 2 mondial des opérateurs portuaires. On sait désormais qu'Alexis Keller a des liens familiaux avec le propriétaire italien. La MSC, c'est le plus gros client des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, une position dominante sur les quais de Port-de-Mille au Havre. On sait qu'à chaque fois depuis la fin des années 2000, Alexis Keller s'est retrouvé dans des conseils d'administration ou à Bercy au ministère de l'économie lors de prises de décisions financières majeures de l'État dans ce secteur, avant de devenir en 2017 le directeur financier du groupe privé. Ce soir, l'avocat d'Anticor estime que ce classement sans suite par le parquet financier démontre un climat de reprise en main de la justice par le politique. Il annonce que l'association de lutte contre la corruption se constitue partie civile dans ce dossier en espérant la nomination prochaine d'un juge d'instruction.
Emmanuel Leclerc. Lui a appelé la justice à préserver un arrêté qui va dans le sens de l'histoire. Selon lui, le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine était convoqué ce matin devant un tribunal administratif à Rennes. On lui reproche d'avoir pris un arrêté qui interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations de sa commune. Il n'est pas compétent pour prendre ce genre de décision, dit la préfecture. Daniel Cueff lui met en avant une directive européenne qui impose depuis 2009 à la France de prendre des mesures pour protéger les habitants de l'épandage de pesticides. Or, rien n'est fait, selon lui. Devant le tribunal, tout à l'heure, il y avait de nombreux soutiens, mais certains grincent également des dents, comme les agriculteurs. Cédric Henry, par exemple, il préside le syndicat FDSE en Ille-et-Vilaine. Ce type d'arrêté, pour lui, est un vrai casse-tête.
Ça serait hyper compliqué à gérer pour nous, les paysans. On a tous, les agriculteurs, des terres sur plusieurs communes, ou quasiment tous. S'il faut regarder à chaque fois quel est l'arrêté pour cette parcelle-là et pour cette parcelle-là, voilà, on n'en finit plus. Et puis, on discute en ce moment avec l'association des maires pour travailler sur une charte sur les phytos. C'est compliqué d'agir sans pesticides. C'est comme si demain, on arrêtait la cigarette pour tout le monde. Tout le monde sait que c'est dangereux, la cigarette, mais maintenant, il faut du temps aux gens, il faut donner des moyens, il faut des solutions alternatives et tout ça. Nous, les phytos, il faudrait qu'en claquant les doigts, on trouve les solutions. Non, il nous faut du temps. Les chambres d'agriculture travaillent sur le sujet, trouvent des nouveaux produits, des nouvelles techniques. Voilà, il nous faut de l'accompagnement, il nous faut des moyens et il nous faut du temps.
Des propos recueillis par Benjamin Fontaine de France Bleu Armorique et le tribunal devrait rendre sa décision en début de semaine prochaine. À la base, c'est un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le bouquet de tulipes, une statue en bronze du plasticien américain Jeff Koons, une main qui tient 11 tulipes multicolores qui étaient loin d'être du goût de tout le monde. Et bien après des années, elle va finalement être installée à Paris dans un jardin juste derrière le petit palais à deux pas des Champs-Élysées. Les premiers éléments vont arriver d'Allemagne la nuit prochaine en convoi exceptionnel. Un cadeau au départ bien embarrassant et qui a fini par trouver sa place, Jacqueline Pétrose.
Oui Estelle, c'est un cadeau embarrassant déjà par la taille, 12 mètres de haut, 33 tonnes, une sculpture en bronze, acier inoxydable et aluminium polychrome. Embarrassant aussi parce que le cadeau est payant. L'installation devrait coûter près de 3,5 millions d'euros. Après controverse, c'est la société Art Production, en charge de la mise en œuvre du projet, qui a trouvé des mécènes, notamment américains, pour amener des fonds. Un cadeau embarrassant également diplomatiquement. Cette œuvre, au départ, a été proposée par l'ambassade américaine en signe d'amitié et de soutien après les attentats. Comment refuser, même si les œuvres de Koons sont régulièrement au cœur de polémiques sur leur esthétisme. Puis, vif débat ensuite sur le lieu de l'installation. Jeff Koons voulait le parvis du palais de Tokyo, très fréquenté par les touristes. Mais le sol s'est révélé trop fragile et les frais de consolidation auraient été exorbitants. Au bout de longues négociations, les tulipes prendront donc racine dans les jardins du petit palais. Cela prendra quelques temps. L'œuvre arrive, vous l'avez dit, par morceaux. Les tulipes retrouveront leur intégralité à la mi-septembre. Reste à savoir comment le public accueillera cette œuvre.
Jacqueline Pétrose, ce bouquet de tulipes devrait être inauguré à l'occasion de la Nuit Blanche, début octobre. On passe à la météo. Bonsoir Jean-Pierre Rameau.
Bonsoir à tous.
Les orages sont bien au rendez-vous dans le sud-est.
Oui, nous les observons actuellement entre les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence et Maritimes, mais aussi du côté de la montagne Corse. Ils vont glisser vers la Côte d'Azur et les Bouches-du-Rhône. Et attention, les cumuls de pluie seront localement importants. Et puis la nuit prochaine, ces orages vont faiblir en laissant la place à un ciel nuageux.
Et pour demain,
nous allons retrouver le plein soleil dans la plupart des régions. À noter noter tout de même la présence de quelques bancs de brouillard éphémères au lever du jour. Du côté de la Bretagne Nord, des Landes et du Val-de-Saône, n'attendez pas d'évolution dans le sud-est. Les orages resteront au menu de la journée. Et puis côté température, les maximales vont monter d'un cran pour afficher 25 à 34 degrés, avec 25 à Cherbourg, 27 à Lille, 28 à Lyon. Prévoyez 29 dans la capitale comme à Nancy et Dijon, 31 à Biarritz, La Rochelle et Marseille, 33 à Toulouse, et la température maximale sera une nouvelle fois observée à Nîmes avec 34 degrés, excusez-moi.
Pierre Rameau, Météo France.